say you'd better come out.
Attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5,
4, 2, 1, 0.
Et l'heure est-il ? 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Eh oui, il est 6h, 6h avant minuit, merci de nous rejoindre sur Syllab. Quand j'avais 7 ans, j'ai appris à déchiffrer mes premiers mots. Le monde de la lecture s'ouvrait à moi, tout comme celui des périodiques pour enfants. Chaque mois, un nouveau numéro de J'aime lire m'attendait dans ma boîte aux lettres, un vrai trésor. Un rituel s'est mis en place, j'ouvrais le livre sacré directement et automatiquement. À la fin, direction les pages BD. Quel bonheur d'y lire les aventures de Tom Tom et Nana et de m'inspirer de leurs bêtises mais aussi de leur créativité de génie. Aujourd'hui, leur maman, Bernadette Després, s'est éteinte à 83 ans. Quelle tristesse, sa disparition coïncide avec l'anniversaire de la Convention des droits des enfants. Parce que pour toujours, la ligne claire et un peu tremblante de cette incroyable illustratrice et autrice illuminera mon cœur d'enfant et j'en suis sûre ceux de beaucoup d'autres. Pour lui rendre hommage, je voudrais partager avec vous une de ses citations grâce à laquelle je comprends mieux pourquoi l'enfant que je fus et l'adulte que je suis résonnent toujours en voyant les visages de Tom Tom et Nana. Elle a dit « Un jour, un enfant m'a dit qu'avec mes histoires, je me vengeais des adultes et c'est très vrai. Je n'aime pas les adultes, ils m'impressionnent avec leur sérieux. » Tout de suite, le flash d'Aglaé.
Il n'y a pas de plan B au sein de la famille des Nations Unies, parce qu'il n'y a pas d'autre agence capable de fournir les mêmes activités. C'est ce qu'a assuré Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, lors d'une conférence de presse lundi à Genève. L'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le 28 octobre, le Parlement israélien a voté un projet de loi pour interdire ces activités. Cette interdiction devrait être mise en place en janvier 2025. Cela pourrait grandement aggraver la situation en Palestine. Par exemple, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, 700 écoles sont gérées par l'UNRWA. Des écoles qui fermeront dans les prochaines semaines, laissant des centaines d'enfants et adolescents livrés à eux-mêmes. Starship, vous connaissez ? C'est la fusée d'Elon Musk qu'il espère un jour envoyer sur Mars pour la coloniser. Et bien pour le moment, le lanceur est en pleine mer. Hier à 23h, heure française, à Boca Chica au Texas, a eu lieu le 6e vol d'essai de la méga fusée Starship. Donald Trump était présent pour afficher sa proximité et constater le travail d'Elon Musk. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le lanceur de Starship, qui correspond au premier étage de la fusée, était censé revenir sur son pas de tir attrapé par des bras mécaniques. Mais cela n'a pas abouti et le lanceur a fini à la mer. SpaceX a ensuite annoncé que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour cette opération. Cette dernière a notamment pour objectif de faire des économies. En octobre, lors du 5e vol d'essai, la manœuvre avait pourtant été un succès.
Quand on pense qu'il aurait pu retomber sur Elon Musk.
Effectivement.
J'ai rien dit.
Aujourd'hui, c'est le TDR, Trans Day of Remembrance, oula, excusez mon accent.
Il était parfait.
Journée du souvenir trans en français. Cyriane nous en explique ses enjeux et nous propose un focus sur les USA, où Elon Musk a été nommé ministre. Le même qui a déplacé SpaceX de la Californie, où une loi pro-trans a été adoptée au Texas.
À l'origine, ce jour est initié en 1999 en hommage à Rita Esther, une femme trans afro-américaine de 34 ans. À l'époque très populaire dans le domaine de la performance, elle se produisait souvent dans les cabarets et les bars de sa ville. Elle est poignardée à mort le 28 novembre 1998 chez elle à Alston dans la banlieue de Boston. L'auteur du crime, lui, n'a jamais été retrouvé. Les proches de Rita accusent aujourd'hui toujours une enquête lacunaire menée par la police. Le vendredi suivant le crime, un rassemblement regroupant 250 personnes a lieu. ralliement ou chandelle à la main, ses proches et la communauté queer lui rendent hommage. La bougie, c'est d'ailleurs maintenant, à présent, le symbole du Tidor. L'année d'après, en 1999, c'est à San Francisco que le vrai premier Tidor a lieu. Une journée de commémoration des victimes de crimes transphobes. Un geste qui, au fur et à mesure des années, deviendra international.
Et 25 ans après la création de ce jour de commémoration, alors quelle est la situation des personnes trans et non-binaires aux États-Unis ?
Eh bien, c'est la dégringolade, Aglaé. Et ce, malgré le mandat passé du président Joe Biden, un démocrate plutôt en faveur des droits des personnes LGBTI. En cause, les différentes lois appliquées par les États sur chacun de leurs territoires. Ainsi, lorsque la Californie, État démocrate, vote une loi pour protéger les droits des élèves trans, celle qui a fait fuir Elon Musk, le Kentucky, lui, républicain, adopte une des, je cite, « pires lois anti-trans ». C'est ce qu'en a jugé à l'époque, en 2023, l'Union américaine pour les libertés civiles, la CLU.
Et cette loi, en quoi consistait-elle ?
Sa mesure principale, c'est l'interdiction de transitionner médicalement pour les mineurs. L'école est également visée par ce texte. Interdiction d'utiliser les toilettes du genre auquel les élèves trans s'identifient. Interdiction pour les professeurs d'employer les pronoms et le prénom choisis par un ou une élève trans ou non binaire, ou encore le bannissement de toute mention de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle pendant les cours. Bref, vous l'aurez compris, ce sont avant tout les enfants qui sont touchés par ces lois. Le retour au pouvoir du très conservateur Donald Trump sur ces questions ne risque pas d'améliorer la situation.
Des enfants particulièrement vulnérables face à la transphobie, et ce, peu importe le pays.
Effectivement, Aglaé. En témoigne cette statistique. Les personnes trans ont une espérance de vie d'en moyenne 30 ans. Une des raisons qui explique ce chiffre, elles ont 8 fois plus de risques de mettre fin à leur jour. Car le Tidor, c'est aussi l'occasion de commémorer ces personnes, tuées non pas par leur transidentité, mais par la transphobie.
Un rassemblement a lieu ce mercredi à 19h, place de la mairie, en souvenir des 350 victimes de meurtres transphobes reportées en un an dans le monde. Une des années les plus meurtrières depuis le début du recensement des crimes de ce type, en 2008. En France, la colère ne faiblit pas. D'abord, pour les agriculteurs et agricultrices, de nouvelles actions sont prévues. Ce matin, Arnaud Rousseau a annoncé au micro de France Info de nouvelles actions mardi, mercredi et jeudi prochain. Ils et elles, et ce depuis le début de la semaine, se mobilisent contre le traité du Mercosur. Selon elles et eux, ce dernier constituerait une concurrence déloyale entre les pays d'Amérique du Sud. Du côté des cheminots et cheminotes, le mécontentement est fort. Demain, ils et elles seront en grève pour 24 heures, une grève survenant en réaction au démantèlement de Fret SNCF, leader dans le transport de marchandises sur rail, qui entraînera la suppression de 500 emplois. Néanmoins, SNCF Voyageurs a annoncé que le trafic sera quasi normal pour les TGV Inouï et Ouigo, et seulement quelques perturbations pourraient survenir sur les lignes régionales. Presque 2 ans après avoir causé un accident, Pierre Palmade se retrouve devant la barre des accusés. Aujourd'hui, au tribunal correctionnel de Melun, s'ouvre le procès de l'humoriste. Il est jugé pour blessures involontaires aggravées. Pour rappel des faits, le 10 février 2023, Pierre Palmade, conduisant sous l'emprise de drogue, a percuté une voiture venant d'en face. 3 personnes sont alors blessées. Un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte qui, à cause de cet accident, a perdu l'enfant qu'elle attendait. L'artiste se trouve en situation de récidive légale. Il avait déjà été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. Il encourt une peine d'emprisonnement de 14 ans et 200 000 euros d'amende. Préparez vos manteaux bien chauds, vos gants, vos écharpes, vos bonnets, tout ce que vous voulez, car il va faire très froid.
Surtout toi, Aglaé.
Effectivement.
Connue sous le nom de Aglagla.
À partir de
Elle
demain...
Elle tremble actuellement. De froid.
Oui, c'est vrai. À partir de demain, 6h, Météo France placera 28 départements en vigilance orange, neige, verglas, dont l'Ille-et-Vilaine. En cause, la dépression Caetano qui va traverser la France d'ouest en est. Demain, à Rennes, selon Météo France, il est fort probable que les températures ne dépasseront pas les 2 degrés. Un peu de neige est même attendu. Alors pas assez pour une bataille de boules de neige, mais suffisamment pour être prudent et prudente sur la route. Début novembre, notre très chère Université Rennes 2 a gagné le prix Campus Lieu d'Art Contemporain 2024, qui est la première édition de ce tout nouveau concours français. Baptiste Brun, vice-président culture et documentation de Rennes 2, nous explique ce que tout ça signifie.
Alors ce concours, c'est un concours qui a été mis en place par un institut qui s'appelle Art et Droit, qui est un institut qui s'intéresse beaucoup à des questions de politique et de droit d'auteur, notamment, et des relations qui s'établissent autour du monde de l'art, du monde du droit et du monde du marché de l'art, et qui a décidé de réaliser un concours pour faire une forme de veille autour des questions de diffusion d'art contemporain dans le champ universitaire. Le constat qu'à l'université, l'art contemporain était peu présent et qu'il s'agissait pour eux de faire en sorte de le promouvoir. C'est important que les étudiants puissent avoir une visibilité de l'art contemporain pendant leurs études. Et donc, il y a plusieurs universités, je crois que c'est une petite dizaine d'universités qui ont postulé à ce concours et on a eu la joie d'apprendre que le dossier de Rennes 2 avait été lauréat. Finalement, il y a une longue tradition de l'art contemporain à Rennes 2, depuis plusieurs décennies, des espaces qui sont spécifiquement dédiés à cet art contemporain, je pense à la galerie Art et Essai. Il y a aussi un lieu très spécifique qui s'appelle les archives de la critique d'art, qui constitue une énorme documentation historique et critique sur la question de l'art contemporain. Donc on a comme ça des équipements, je dirais, qui sont vraiment de première importance, à la fois pour la recherche, pour la formation et pour la diffusion de l'art contemporain. Donc, le prix, c'est une forme de visibilité justement de cette activité et récompense aussi des efforts constants qui ont été menés par bon nombre de collègues, enseignantes-chercheuses, enseignants-chercheurs et aussi personnel administratif et technique. On ne postulera pas l'année prochaine. Ils nous ont dit vous n'aurez pas le droit de candidater pendant un ou deux ans parce que de toute façon, vu ce que vous présentez, vous seriez obligé de le regagner.
Ok, Denis Brunner.
On a perdu Aglaé, j'aurais pas dû. Je suis allée trop loin aujourd'hui.
Merci Baptiste Brun et Eva pour cette interview. Waouh! Et sinon, est-ce que vous aimez le hip-hop, Cyriane, Eva, Héloïse?
J'adore ça,
non.
Eh bien, dans tous les cas, ne loupez pas la Hip-Hop Night. Demain soir, de 19h30 à 23h30 à la Salle de la Cité, est organisée la 3e édition de la Hip-Hop Night. La culture urbaine rennaise sera mise à l'honneur avec du rap et de la danse. 13 artistes sont programmés, très bonne ambiance assurée. Le prix de cette soirée, 10 euros.
Merci Aglaé pour ce flash de qualité. Je l'ai un peu mentionné dans mon édito, le papier de Cyriane a résonné un peu aussi avec cet événement. Aujourd'hui, c'est les 35 ans de la Convention des droits des enfants. On reçoit en lien, quoi. Allô, allô,
pas de
6h avant minuit.
Effectivement, face à moi ce soir, une interview teintée de bleu. J'ai tout d'abord face à moi Philippe Jurel avec sa magnifique casquette bleu cyan siglée UNICEF. Vous êtes président du comité de l'UNICEF Bretagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous est venu Elouane, un étudiant en droit et jeune bénévole pour UNICEF. Bonsoir.
Bonsoir.
Lui aussi vêtu de bleu, du pantalon au pull, un beau bleu marine. Donc vous êtes là pour l'association UNICEF. Est-ce que vous pourriez rappeler ce que c'est UNICEF ?
Alors l'UNICEF, c'est une agence des Nations Unies qui a été créée en 1946, juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout simplement, il y avait beaucoup d'orphelins et il fallait s'en occuper. Donc beaucoup, vous avez mentionné l'IRWA tout à l'heure, beaucoup d'agences des Nations Unies ont été créées à cette époque-là. En France, la création de l'UNICEF date de 1964. C'est les 60 ans cette année d'UNICEF France.
Et du coup, est-ce que vous pourrez rappeler quel rôle joue UNICEF ? C'est quoi ? Quelles sont les actions d'UNICEF ?
Alors, s'il y a quelque chose dont il faut... c'est très simple, en fait. UNICEF agit pour chaque enfant, partout dans le monde, pour défendre leurs droits. Donc, vous mentionniez tout à l'heure la Convention internationale des droits de l'enfant. Effectivement, c'est le 35e anniversaire. C'est une convention qui est composée de 54 articles. Il y en a 42 qui ciblent spécifiquement le droit des enfants, donc voilà, le droit à être protégé contre les violences à la guerre, le droit d'être protégé contre les violences domestiques, le droit à avoir accès à l'alimentation, à un hébergement sûr, à l'éducation, au sport, à la culture, etc. Ces droits sont universels, interdépendants, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, et inaliénables. Ça, en fait, c'est la feuille de route de l'UNICEF. On se base sur cette convention pour mener nos actions partout dans le monde. Pas simplement au niveau des terrains d'urgence. Les gens connaissent l'UNICEF beaucoup parce que ils voient du bleu cyan, vous le mentionnez tout à l'heure. Là où il y a des catastrophes naturelles, là où il y a des conflits, UNICEF intervient en situation d'urgence pour protéger les enfants et leurs droits. Mais en fait, on intervient partout dans le monde, y compris en France, y compris en Bretagne, y compris à Rennes, pour la défense des droits de l'enfant.
Et donc spécialement à Rennes, comment vous parlez ? Vous avez fait un communiqué dernièrement en lien avec le nombre d'enfants qui étaient à la rue en Bretagne. Et donc comment vous agissez par rapport à ça, par rapport même au rôle de l'État là-dedans ? Quel lien vous entretenez en fait avec les gens qui sont responsables de cette situation ?
Okay. Alors ça, c'est, en fait, il y a 4 missions UNICEF, la collecte, la visibilité, la sensibilisation aux droits des enfants, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Là, vous mentionnez une de ces missions qui est le plaidoyer. C'est formidable d'avoir cette convention. Ce qui est encore plus formidable, c'est qu'elle soit respectée tout le temps, partout, y compris par les pays qui l'ont ratifiée, dont la France. Mais il arrive que ce n'est pas forcément le cas. Et donc, notre mission de plaidoyer, c'est en s'adressant aux décideurs publics, ça va du président de la République jusqu'aux conseillers municipaux en charge du protocole de sortie des écoles dans les villages, de leur dire voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce que la France a signé, c'est-à-dire ce sur quoi elle s'est engagée, et nous, notre mandat en tant qu'agence de l'ONU, c'est de faire respecter ça. Donc là, par exemple, vous mentionniez le baromètre des enfants à la rue. Alors, c'est le sans-abrisme des enfants qui est l'enjeu là. Et offrir un hébergement d'urgence sûr à des enfants, c'est une compétence de l'État. Donc on a fait en août dernier, avec des acteurs de la solidarité, un état des lieux sur une nuit au mois d'août. Il faisait encore pas aussi froid que j'ai compris il allait faire demain. Mais clairement, il y avait quand même plus de 2000 enfants qui dormaient à la rue, dont 300 de moins de 3 ans. C'est un problème parce que normalement, ça ne devrait pas exister. Donc ce qu'on a fait, alors on mène un travail de lobby en continu, de conviction, mais là, on a décidé de faire un peu différemment, c'est-à-dire de publier tout, partout, tous les chiffres. Et on était assez sûr de ces chiffres, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on était c'est un partenariat avec le 115. Cette nuit-là, du mois d'août, on a répertorié toutes les familles avec enfants qui appelaient et qui ne se voyaient pas proposer d'hébergement d'urgence. Et on a fait ce baromètre, un état des lieux qu'on a envoyé partout aux médias. C'était une des plus découvertes médias les plus importantes pour cette année, pour rappeler aux préfets, qui sont les représentants de l'État dans les régions, leur responsabilité. Il y a un point. Alors c'est absolument désolant le sans-abrisme, mais il y a un point quand même qui est spécifique à la Bretagne, c'est que la situation ne se dégrade pas autant que dans les autres régions, parce que je pense qu'on peut parler de solidarité citoyenne. C'est pas la solution, mais c'est déjà ça. Lorsque des écoles s'ouvrent pour accueillir des familles avec des enfants, lorsque des gymnases s'ouvrent, même que lorsque des citoyens ouvrent leurs portes pour accueillir des familles avec enfants. L'urgence, c'est vraiment de mettre en place un véritable programme de construction d'hébergement, d'hébergement d'urgence, sinon on ne s'en sortira pas. Tous les hivers, ce sera la même chose.
Et donc justement, vous parlez de couverture média pour alerter et même sensibiliser, mais ces couvertures médias, elles sont utile pas seulement pour alerter les politiques publiques, mais aussi pour faire pas de la publicité un peu pour UNICEF, mais pour sensibiliser les autres personnes à UNICEF. Du coup, là, je vais plus me tourner vers toi, Éloane, mais Est-ce que c'est un de ces rapports ou comment t'es devenu bénévole à UNICEF en fait?
Alors moi, je suis devenu bénévole à UNICEF non seulement parce que c'est extrêmement reconnu, c'est une agence de l'ONU. Alors moi, comme je fais du droit, les droits des enfants, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui me parle déjà dans le cadre de mes études, mais c'est aussi quelque chose qui me touche personnellement. Moi, j'aurais envie de pouvoir faire des choses axées sur le droit international et particulièrement le droit des enfants. Alors c'est pour cela, c'est pour cette raison qu'UNICEF m'intéresse énormément. C'est vrai que du grand public, UNICEF, les gens connaissent comme ça, on leur parle, ils connaissent, mais concrètement, toutes les actions, toutes les choses qui sont faites, tout le monde ne connaît pas réellement en réalité. Et nous mobilisons justement pour essayer de rendre visibles ces actions, de rendre visibles les couleurs bleues de l'UNICEF et toutes les actions qui sont menées au sein de l'UNICEF. Nous avons des comités un petit peu partout en France. Ici, c'est le comité de Rennes. Par exemple, aujourd'hui, pour les journées bleues, les élèves d'RSB ont démarché plusieurs boulangeries et une boulangerie a été partenaire de cette école pour pouvoir leur donner des choux bleus aux couleurs de l'UNICEF. C'est assez sympa. Et donc, ils ont pu montrer au sein de leur école comment protéger les droits de l'enfant, en tout cas, de rendre visible UNICEF, et ça c'est une chose très importante, on a besoin de cette visibilité, on a besoin de crédit de la part des gens, que les gens nous soutiennent, de grandir, et ensuite de pouvoir mener encore plus d'actions et d'être encore plus concret, et réellement aider les enfants, et réellement être actif.
Alors là, ça passe par la collecte, hein, on va être concret. Donc 92 092, vous pouvez faire des dons par SMS, donc don 3, c'est 3 euros, don 6 et don 18. En fait, grâce aux étudiants de RSB, on est présent à la fois dans les cinémas, en l'occurrence à Rennes, au cinéma Arvor, qui est notre partenaire, et puis on était présent donc à cette pâtisserie Tichou au campus, et ce soir dans un autre restaurant, Le Hou. Mais l'objectif, c'est visibilité et collecte. C'est ça qui fait fonctionner. C'est ça qui nous permet parfois de se dire, voilà, si je fais bien les choses ici, ce que je vois à la télé, ça contribue à améliorer la situation. Et en plus, UNICEF, c'est une agence qui est assez efficace. C'est-à-dire, pour 100 euros donnés, il y en a 80 qui vont directement sur le terrain. Ce qui est une belle performance en termes de collecte opérationnelle.
Et tout à l'heure, vous parliez de droit international, et moi, personnellement, ça m'a fait directement penser à la situation qui est en cours à Gaza actuellement. Ouais. Et donc, est-ce que vous pourriez rappeler, expliquer en quoi... parce qu'à Gaza, la moitié de la population sont des enfants, et à quel risque, en fait, quand on est enfant dans un conflit comme celui-là, et surtout dans une enclave qui est celle de Gaza, à quel risque on est particulièrement exposé?
Alors, il faut savoir déjà que... Non, les conflits, les conflits comme en Ukraine ou à Gaza ou au Liban, où les populations civiles sont les premières victimes, les enfants payent un lourd tribut, puisqu'ils sont plus fragiles à la guerre. Gaza, c'est très simple. En fait, UNICEF, depuis le début du conflit, ce qu'on réclame, c'est... La libération inconditionnelle des otages, le cessez-le-feu, bien sûr. Vous dites que restent les enfants quand il n'y a plus d'hôpital, quand il n'y a plus d'école, ils risquent à la fois des maladies, du non-traitement, et puis la perte de l'éducation, et une vie broyée. Le cessez-le-feu, la libération des otages, la réouverture des couloirs humanitaires. Il faudrait, même si l'UNICEF a réussi à mener une campagne de vaccination contre la polio dans des conditions absolument abominables, il faudrait que 1000 camions puissent passer aux accès terrestres. En fait, il y en a à peine 100 et encore, ça diminue. Et même une fois qu'ils sont rentrés, de toute façon, il n'y a plus de route, donc comment on fait ? Et puis, le dernier point, c'est quand même le respect de la Convention internationale et plus globalement du droit humanitaire, ce qui pose un problème. Donc en fait, on est engagé là-dessus. Tout le monde voit, enfin, tout le monde peut constater la sévérité de la situation, enfin, que ce soit à Gaza, en Ukraine, au Liban, au Soudan, enfin, c'est la même. C'est ce que permet l'engagement à l'UNICEF, c'est-à-dire, quand on est assis sur le canapé et qu'on regarde ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire, c'est très loin, je ne saurais pas faire. En fait, l'intérêt, là, il y a vraiment des gens qui sont investis, professionnels, qui savent gérer tout ça. Et ce que nous, on fait ici, donc à Rennes, par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est, ça sert la cause des enfants là-bas. Et c'est-à-dire, là-bas, ça sauve des vies, quoi. Vacciner contre... dès qu'il y a des bombardements, on sait que dans les jours qui suivent, il va y avoir des problématiques d'infection, type choléra, polio, etc. Donc il faut absolument agir très vite.
Et vous parliez d'agir ici. Du coup, il y a aussi la question de l'ASE qui va être pas mal touchée par les restrictions budgétaires imposées par l'État, puisqu'elles s'imposent donc aux régions et aux départements. Et est-ce que vous pourriez expliquer concrètement qu'est-ce que les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance encourent un peu comme risque ou comme danger? Enfin, qu'est-ce que ces restrictions, en fait, ça fait matériellement aux enfants, quoi ?
Alors, c'est pas notre rôle à nous de dénoncer. On les constate, et comme on est vigilant, on alerte les pouvoirs publics. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'ASE, il faut savoir que l'UNICEF est auditionné assez fréquemment par les membres de la délégation parlementaire aux droits de l'enfant qui existe à l'Assemblée nationale. On espère qu'elle se créera au Sénat. Et l'ASE, il y a eu quelques faits divers très problématiques ces mois passés où il y avait des jeunes filles en l'occurrence qui n'avaient pas accès à des placements décents et qui se retrouvaient seules dans des hôtels isolés et quand on a déjà un parcours de vie compliqué et qu'on peut rencontrer de mauvaises influences, ces drames se sont produits, ces jeunes filles se sont suicidées, donc nous forcément on alerte les pouvoirs publics, puisque l'ASE dépend des pouvoirs publics, sur le fait que il faut absolument faire évoluer la prise en charge actuelle. C'est-à-dire on peut plus placer des mineurs dans des hôtels miteux et les laisser comme ça en disant « Ok, ils sont placés ». Non, ils ne sont pas placés. Encore une fois, les droits, ce n'est pas simplement là, pour le coup, un hébergement sûr, mais c'est l'accès au repos, à la culture, à l'éducation. Tout ça, ça va ensemble.
Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu. Est-ce que vous pourriez rappeler le numéro auquel faire un don ?
Alors, 92 092, et vous tapez le code DON 3, ou DON... Alors,
il y a les collègues
DON 9 derrière la vitre, ils me font des signes. DON 9, voilà. Donc, DON 3, DON 9, ou alors mieux, DON 18. Voilà, merci.
Et si des personnes qui nous écoutent voudraient devenir bénévoles donner d'eux-mêmes, comment il et elle peuvent faire.
unicef35@unicef.fr. Sinon, vous tapez n'importe quel site internet avec UNICEF dessus, normalement, vous devriez finir par nous trouver.
Vous êtes tous les bienvenus.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
6h avant minuit.
Maëlle est de retour pour sa chronique sur les assos rennaises. Ce soir, tu nous parles du Téléthon, Maëlle, c'est ça ?
Exactement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour commencer, saviez-vous qu'en 2021, plus d'un quart des Français déclarent avoir été bénévoles dans au moins une association au cours des 12 derniers mois ? Le bénévolat est essentiel pour la survie des associations françaises, qu'elles soient culturelles, caritatives, sportives ou encore de loisirs. Mon but lors de cette chronique, c'est de vous faire découvrir les associations près de chez vous, dans lesquelles vous pourriez vous engager. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'UNICEF, je pense que ça a déjà été assez fait. Je vais vous parler du Téléthon. La FM Téléthon est née d'une conviction et d'une volonté. Guérir les maladies longtemps considérées comme incurables. Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre la myopathie, l'AFM, pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent récolté lors de cet événement est également utilisé pour aider au quotidien et accompagner les malades. Le Téléthon est un marathon télévisé de 30 heures diffusé sur les chaînes de France Télévisions, permettant de faire de la visibilité pour l'association ainsi que de la collecte de dons. En effet, cet événement recueille 3% des dons annuels des Français. C'est la plus grosse collecte populaire du monde. Mais le Téléthon ne se déroule pas seulement à travers le petit écran. Beaucoup d'actions locales sont organisées lors du week-end qui se déroule cette année du 29 au 30 novembre. Plus de 12 000 communes et 50 000 associations locales sont mobilisées en France. Ces actions rassemblent chaque année à peu près plus de 2,5 millions de Français. Mais comment Rennes se mobilise? Voici quelques actions qui concernent la métropole rennaise. Envie de se dépenser? Le 30 novembre de 9h à 23h au Garden Rennes, des ateliers découverts de squash sont animés par les adhérents de l'association. L'organisation d'un tournoi multi-raquette y est également organisée. Au programme, badminton, squash, padel avec engagement pour participer. Pour les amateurs de poker, le pokerton est organisé le 30 novembre à partir de 8h à la maison de quartier de Francisco Ferrer. En ce qui concerne l'agglomération rennaise, pas de quoi s'ennuyer également. Question divertissement, à Chavagne, le 8 décembre à 16h, la troupe de théâtre de l'Espérance réalise une représentation de la pièce « Soupe de légumes ». Et ce n'est pas fini. Plein d'autres animations sont réalisées début décembre à Rennes et ses alentours. Elles sont toutes enregistrées sur le site internet de l'AFM Téléthon. Pour des dons, il suffit d'appeler le fameux numéro 3637 dès le lancement du Téléthon le 29 novembre 2024. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve alors dans un mois pour vous présenter une nouvelle association.
Merci Maëlle pour toutes ces informations. Moi, je voulais vous faire passer un petit message. Les 28, 29 et 30 novembre, c'est le festival Culture Barbare. Cette fin de deuxième édition à Rennes, ça représente plus de 201 artistes dans 19 bars partout dans la ville. SILAB vous propose de remporter 2 places par soir et par concert pour ceux qui sont proposés au Melody Maker, à l'Amrock et à Grabuge. Pour les gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que Cyrène va vous donner. Le mot de passe est...
Conan, avec un C.
Conan le barbare, culture barbare, et oui. Super contrepétrie, Conan le barbare. Tu la connais? Je te laisserai réfléchir.
Désolé.
Pour en savoir plus sur le concours ou pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr, rubrique concours du moment. Avant de se quitter, on a un dernier petit truc à vous dire.
Le téléphone.
Allô?
SILAB, la radio sauvage.
À SILAB et à 6 heures avant minuit, nous avons un répondeur téléphonique. Vous pouvez y laisser un message sur tout ce que vous voulez, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour à quelqu'un sur ce plateau ou ailleurs, un coup de gueule peut-être, pas à quelqu'un sur ce plateau par contre.
Non, s'il vous plaît.
Un retour sur nos reportages ou nos sujets peut-être. Pour nous laisser ce message vocal, il suffit de taper le 02 30 96 25 35, 02 30 96 25 35, nous le diffuserons à l'antenne. Merci Eva, la queen de la technique, à demain.
Eva, la girl boss.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur SILAB, la radio sauvage.